cours de philosophie première par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard, le 7 avril 95.
Alors, faites comme ça si vous voulez, pour vous amuser. avec 6-10 modalités. Est-ce qu'il y a un parallèle avec les types prédicaments? Vous pouvez vous amuser. Sûrement qu'il y a un parallèle, puisque c'est toujours l'être. Et que, mais en même temps, respectons l'ordre tout à fait différent. Puisque ici, 5 modalités de l'être en acte, c'est selon la fin. Les 10, selon la forme. Alors, si vous maintenez bien cette diversité, vous pouvez vous demander s'il y a des parallélismes à faire. Ça n'avance pas à grand chose. Mais on peut. C'est toujours l'être. Alors peut-être je prends tout spontanément la relation. La relation, c'est du côté. Correspond la distinction. perfection, l'ordre d'intelligibilité. L'ordre d'intelligibilité suit l'ordre de perfection. C'est une conséquence. Puisque l'intelligibilité est une propriété de l'être. Et l'ordre de perfection, c'est du côté de la finalité. Est-ce analogue à la distinction acte-substance ? Non. Je ne crois pas qu'il faut mettre cette analogie. On peut dire, évidemment, que la substance est intelligible dans la mesure où elle est en acte, dans la mesure où elle est principe, c'est sûr. Et l'ordre de perfection repose sur la finalité de l'acte, c'est sûr. Mais j'aime mieux dire que l'intelligibilité est une perfection, est une propriété de l'acte, et aussi propriété de la substance. De sorte que le point de vue de l'intelligibilité est du côté critique. Chercher l'ordre d'intelligibilité en critique. L'ordre génétique d'intelligibilité et l'ordre de perfection d'intelligibilité. Vous avez les deux. Donc ça n'ajoute pas un nouvel ordre. Vous voyez, l'ordre devenir et être est quelque chose d'absolument fondamental. Vous le retrouvez partout.
Parfait. Et même au niveau de l'amour humain, n'est-ce pas la personne humaine?
aimer, pour pouvoir aimer ensuite soi-même. Alors, faites attention. Dites que dans l'ordre génétique, la puissance est absolument première. Puisque celui qui produit, qui agit, n'est plus dans l'ordre génétique, il est dans l'ordre de perfection. Que l'ordre génétique ne peut jamais se suffire à lui-même, c'est évident, puisque c'est un ordre génétique en puissance. Donc il attend un agent, et ne peut progresser qu'en fonction d'un agent. Mais quand je prends l'ordre génétique, je regarde celui qui bâtit, celui qui devient. Or celui qui devient implique toujours, avant son devenir, la puissance. Puisque celui qui devient passe de la puissance à l'acte. Donc la puissance est antérieure. Mais il ne peut passer de la puissance à l'acte que grâce à un agent. Mais l'agent n'est pas dans l'ordre génétique, il est dans l'ordre de perfection, puisqu'il agit. Mais, donc respectons bien la formalité de l'ordre génétique et de l'ordre perfection. Et puis, vous vous posez la question, comment on passe de l'ordre génétique à l'ordre de perfection? Alors là, évidemment, il y a un agent. Parce que tout ce qui est mu... Alors, je ne reprends pas, mais dès qu'on a compris ça, on en comprend immédiatement. Donc, on peut dire que l'être en puissance est promis absolument dans l'ordre génétique. Formellement dans l'ordre génétique. L'ordre génétique commence toujours par la puissance. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'ordre génétique dans la création. L'ordre génétique est propre à l'homme, propre à la créature, mais propre à l'homme, puisque en Dieu, il n'y a pas d'ordre génétique. Vous devriez dire qu'il y a une évolution en Dieu. C'est pas parce que Dieu commence à penser avant d'agir qu'il y a un ordre génétique. Non, il est toujours en acte. Il est acte pur. Donc il est la perfection absolue. Alors, je reprends. Dans le monde physique, la réalité physique ne peut être mue que par une réalité qui est déjà, c'est sûr. La réalité physique agit. Celui qui agit, c'est celui qui transforme l'ordre génétique en ordre de perfection. Lui n'est pas dans l'ordre génétique, puisqu'il le transforme. Tandis que je regarde l'ordre génétique formellement. Et c'est la même chose pour le vivant, et c'est la même chose pour l'amour d'amitié. Alors, parce que tout ce qui est mu implique la dualité inextricable de la nature, forme et matière. Tout ce qui est mu par un autre. Tout mu. Appelle donc un moteur. Pourquoi le principe moteur n'est-il plus être en acte? N'est-il pas plus être en acte que le mouvement? C'est sûr, l'être moteur est en acte, puisqu'il agit. Il est capable d'agir. Celui qui bâtit est en puissance. C'est celui qui bâtit, qui gémit et qui appelle. Et c'est celui qui est en puissance. On ne gémit que quand on est en puissance. Tandis que vous exultez de joie quand vous êtes en acte. Les chantres le savent très bien. Il faut qu'ils soient en acte pour exulter. Quand ils ne sont pas très éveillés, ils gémissent. Deux stades de la liturgie, le stade d'imperfection qui sont les gémissements, et puis le stade de perfection. Bon. Alors, je voudrais avec vous, parce que c'est le dernier cours, hein, réfléchir sur ce fait qui me semble très important. Bon, j'ai exulté de joie quand je l'ai découvert. Alors vous allez exulter de joie. Hein. je prends l'être en acte, les cinq modalités de l'être en acte. La substance, l'essai, le jugement, vérité, la volonté, l'amour, la bonté. nota bene, remarquez bien que ces cinq voies dépendent des cinq modalités du principe de finalité. Mais pour Thomas d'Aquin, c'est tellement évident qu'il ne le dit pas. C'est la glose qu'il dit. Et nous sommes la glose qui explique pourquoi cinq voies, pas six. Maritain a voulu en ajouter une sixième, parce que Maritain n'a pas compris la finalité. Alors il en ajoute une sixième, je peux en ajouter une septième. Pourquoi Thomas d'Aquin ne parle absolument pas de la voix de Saint Anselme, qui faisait fureur, que les Sorbonnards acceptaient? Saint Anselme est accepté aujourd'hui à la Sorbonne, mais pas Thomas d'Aquin. Ça, c'est extraordinaire. On trouve que ce que dit Saint Anselme, c'est merveilleux. Ce que dit Thomas d'Aquin, non. C'est aristotélicien. Oui, l'a priori. Parce qu'au fond, d'un côté, il n'y a pas besoin de causalité. Et de l'autre côté, il faut la causalité finale. Or, celui qui ne cherche pas la vérité a très vite une haine pour la causalité finale. C'est très curieux, ça. Ça, c'est un être en nota bene. Mais vous verrez ça. C'est que il faut avoir un très grand amour de la vérité pour découvrir la causalité finale. Pourquoi? Parce que c'est par la causalité finale que vous découvrez votre petitesse, votre dépendance, vos limites. Alors on n'aime pas découvrir ses limites. On n'aime pas découvrir sa petitesse et sa dépendance. On veut son autonomie. Aujourd'hui, le grand mot, c'est l'autonomie. La plus grande critique que vous faites à quelqu'un, c'est de dire, il n'est pas autonome. Dans quel domaine? Et vous? Vous êtes autonome dans votre digestion? Non, vous n'êtes pas autonome. Ça dépendra de ce que vous allez manger. Si on vous donne du poisson, l'autonomie, elle est belle. Voyez, l'autonomie n'était pas un absolu. L'autonomie, ça c'est la bombe psychologique. Il n'est pas autonome. Alors, il n'est pas autonome dans sa vie intellectuelle. Bon, est-ce que c'est un défaut? Il n'est pas autonome dans sa vie affective. Est-ce un défaut? Il n'est pas autonome dans sa vie végétative. Est-ce un défaut? Il n'est pas autonome, et ainsi de suite, dans sa vie passionnelle. L'autonomie, ça relève de quoi? Est-ce que ça relève du principe de causalité finale? Non, c'est la destruction du principe de causalité finale. Celui qui est autonome n'est pas finalisé, puisqu'il est autonome. Celui qui est finalisé, il est dépendant. La petitesse évangélique, c'est l'inverse de l'autonomie. Attention, quand je dis l'inverse, attention, c'est pas au même niveau. L'autonomie se prend au point de vue psychologique. Et la petitesse évangélique se prend au point de vue de l'amour. Or, dans l'amour, je suis toujours dépendant du bien, de la personne que j'aime. Si vous mettez l'autonomie comme un absolu, vous n'avez plus d'amis. Et au bout d'un certain temps, vous supprimez même Dieu. Parce que Dieu est très gênant pour mon autonomie. Parce qu'il me montre que mon autonomie dans l'ordre de l'être est une dépendance radicale. Ah oui, c'est très intéressant de voir pourquoi la finalité a disparu dans la philosophie dès le 14e siècle. Faut en avoir, bien le voir. Tout de suite après Thomas d'Aquin, Don Scott, le bienheureux Don Scott. Mais maintenant il est d'accord. Bienheureux Don Scott dit que la finalité, le principe de finalité, est métaphorique. Pourquoi dit-il qu'il est métaphorique? Parce que seule la causalité efficiente est efficace. Ce qui est vrai, royaume de Dieu. Parce que celui qui dit Seigneur, Seigneur, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je reste uniquement là, dans l'intentionnalité. Je ne mets jamais la main à la pâte. Or, il faut l'efficacité, il faut la cause efficiente pour réaliser quelque chose. Donc, seule la cause efficiente est réelle, parce qu'elle est efficace. Tandis que la causalité finale, elle n'est pas efficace, donc elle est métaphorique. Comme causalité. Voyez, le petit raisonnement. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Ce qu'on regarde comme critère l'efficacité, c'est la conséquence de Don Scott. Mais alors qu'en réalité, la causalité finale est la cause des causes. Comme dit Aristote, le mythe de Thomas d'Aquin, c'est la cause des causes. La causalité efficiente n'est en acte que grâce à la finalité. C'est vrai que la causalité efficiente est la seule efficace, c'est sûr. J'ai l'intention d'écrire. Oui, mais est-ce que vous écrivez? Qu'est-ce qui vous permet? Qu'est-ce qui vous fait vous écrivez? Causalité efficiente. C'est pas vrai. Mais votre intention applique la causalité efficiente. S'il n'y avait pas l'intention d'écrire, causalité finale, il n'y aurait pas l'efficacité. Mais quand la finalité est mise entre parenthèses, la causalité efficiente s'use très vite. Alors il faut chercher l'efficacité pour l'efficacité. Et pour chercher l'efficacité pour l'efficacité, il faut un motif de gloire. Donc une finalité qui n'est pas la vraie, qui est la gloire. Je veux être le premier dans l'ordre de l'efficacité. Je veux dominer le monde par l'efficacité. Et tout le monde se remettra à moi dans l'ordre de l'efficacité. Je veux être le premier dans l'armement pour que personne ne puisse m'attaquer parce que je menacerai. Vous voyez, les finalités, elles reviennent tout le temps, mais ce ne sont pas des vraies finalités humaines, ce sont des finalités artistiques. Quand l'efficacité passe avant la vraie finalité humaine, c'est qu'on veut l'œuvre avant tout. Et c'est l'œuvre qui est fin de l'artiste qui passe avant tout. Et alors c'est de fait une finalité, c'est en fait une philosophie artistique qui remplace la finalité morale. Qui remplace la philosophie morale. C'est la finalité de l'œuvre qui remplace la finalité de l'amour. Donc ça, il faut le voir très nettement. Premier moment de la désagrégation du principe de finalité. Historiquement, c'est comme ça que ça s'est passé. Finalité métaphorique. Et une fois que la finalité a été dite métaphorique, on l'a supprimée. Métaphorique, donc elle est rhétorique. Et au fond, on subit très fort ça. On est très fort dans ce point de vue-là. Et on oublie par le fait même que l'amour est premier. Vous n'avez qu'à faire votre petit examen métaphysique. Qu'est-ce que c'est que représente pour vous le principe de finalité dans votre vie? Qu'est-ce que ça représente? Bon, si vous êtes chrétien, c'est facile. Vous le dites tout de suite. Aimer Jésus, aimer le prochain, tout est résumé là-dedans. Tout est résumé dans la finalité. L'évangile le dit. Aimer Jésus, mais l'aimer de façon vraie, pas en parole seulement. L'aimer en parole, c'est rhétorique. L'aimer en action, c'est l'efficacité. Oui, vous passez d'un amour à l'efficacité. Vous faites ce que vous devez faire. Et vous le faites avec générosité. En vous avant entièrement l'efficacité. Et l'efficacité est mesurée par la finalité. Puisque s'il n'y avait pas la finalité, vous ne me donnerez pas avec force. Vous voyez, ce qui est très étonnant, c'est que l'évangile, si vous le lisez, implique tout de suite la finalité. Et l'efficacité. enfermé en lui-même, qui a peur de son maître, et qui, parce qu'on lui donne des talents, il les enfouit. La finalité de l'enfouissement, qui n'est pas une finalité. Il faut que les talents qu'on a progressent. Mais il ne faut pas que la progression des talents remplace l'amour. Alors, il n'y a plus rien. Donc, si je suis attentif à l'Évangile et à l'enseignement du Christ, je crois que la finalité est première. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces. Aimer le prochain comme Dieu l'aime. C'est bien la finalité, ça. Alors, c'est ça qui est très étonnant. C'est que quand je suis en philosophie réaliste, je vois que le sommet de ma philosophie, c'est de découvrir l'être en acte. Et en découvrant l'être en acte, je découvre le principe de finalité au niveau de l'être. Donc je le découvre vraiment. Je l'ai découvert d'abord en philosophie de l'art, par le point de vue de l'efficience. C'est pour ça qu'il faut tout le temps venir à l'art, au travail. Comment on corrige, comment on éduque quelqu'un, c'est par le travail. Ça c'est sûr. C'est l'éducation fondamentale. Travail manuel. Travail intellectuel. C'est le travail qui me donne le sens de la finalité, en premier lieu. Et si je peux faire de la philosophie et de la métaphysique, je découvre au terme que toute mon intelligence de l'être proclame la finalité comme la cause des causes. C'est ça qui est impressionnant, voyez. Parce que chaque fois que ma recherche intellectuelle rejoint l'Évangile, autant qu'elle le peut, à son niveau humain, et que le niveau surnaturel reprend ce qui a été dit pour le redonner un nouvel élan. Autrement dit, quand toute ma recherche philosophique, ce sont les préambula fidei. Le préambula fidei, le plus magistral, c'est le principe de finalité. Tout ce qui est en puissance est ordonné à l'acte. C'est la clé de tous les préambula fidei. Et au point de vue intellectuel, c'est là où mon intelligence est le plus en acte. Ce n'est pas encore la contemplation. Mais s'il n'y a pas ça, il n'y aura pas de contemplation. Il y aura peut-être de la rhétorique. Il y aura peut-être des proclamations rhétoriques très belles. Mais il n'y a pas de contemplation. Mon intelligence ne peut contempler que quand elle a découvert la finalité. Je dis bien mon intelligence. Grâce à Dieu, la foi m'est donnée plus vite. Et par la foi, je peux contempler tout de suite. Mais j'ai besoin de l'enracinement de la foi dans mon intelligence. Lorsque je serai en face des vaches maigres, quand tout l'aspect sensible disparaît, je suis vraiment au désert, terrain aride, sur la carte de la philosophie le principe de finalité. Vous mettrez sur la carte Michelin, beau panorama, un merveilleux panorama. Et ce panorama, il implique les cinq modalités. Et donc vous avez, puisque la causalité finale est cause des causes, il est normal de découvrir la causalité finale dans toute sa pureté. À l'état pur, la causalité finale se servant de la causalité formelle. Causalité finale, donc toujours causalité finale, plus cause formelle. La cause selon la forme, disons, pour être plus exact. Tout jugement est ordonné à la vérité. Toute opération intellectuelle est ordonnée à la vérité. À la vérité formelle qui implique la vérité ontologique. Alors, causalité finale plus causalité formelle. Il y a deux fois la causalité formelle, vous allez comprendre. Le point de vue des opérations vitales, causalité finale plus cause efficiente. Le corps plus causalité matérielle. Il n'y a pas d'autre possibilité, puisque vous avez cinq causalités. Et la causalité formelle se donne de deux manières. La causalité formelle immanente, la causalité formelle exemplaire. Alors, c'est une vie très étonnante. C'est que au terme, quand on a été loyal jusqu'au bout, en voyant ça, ce qui est très étonnant, c'est que tout ça est présent dans Aristote. C'est présent dans Aristote. Il faut le redécouvrir. Dans le livre des temps, tout ça est présent. Et je crois que Thomas d'Aquin l'a saisi et a donné les cinq voies. Vous allez maintenant mettre les cinq voies à côté, vous allez tout de suite comprendre. Causalité finale pour elle-même, à l'état pur. La cinquième voie. Causalité finale, cause formelle, plus cause formelle, la tertia. Causalité finale et la cause matérielle, la prima. La seconda. Et la quarta. Et vous voyez comment toute la structure des voies d'accès vis-à-vis de Dieu implique expérience, causalité finale, avec ces diverses possibilités. La causalité finale à l'état pur. C'est pour ça que je commence les voies d'accès vis-à-vis de Dieu par la causalité finale à l'état pur, l'amour. Voilà mes cinquièmes. C'est très bien, parce qu'il est dans un ordre, non pas d'invention, mais il est dans un ordre critique. Alors on comprend que tout repose sur la quinta. voix se tienne. Tout repose dans l'aspect le plus pur, sur la quinta. C'est la quinta qui aboutit à une intelligence première. Donc qui aboutit à une personne. Tandis que la prima aboutit, risque d'aboutir avec toutes les querelles qu'on a pu faire sur l'être qui est immobile au-delà du mouvement. Oui, parce que c'est la négation la plus nette. En Dieu, il n'y a aucune potentialité. Et la potentialité radicale et substantielle de la matière n'existe pas en Dieu. Tu as créé la matière, la concrète. Tu as créé la matière, mais la matière n'est pas en Dieu. Alors c'est ça qui est très curieux. Comment peut-il créer quelque chose qui n'est pas en lui ?
Est présente dans la vérité.